Chapitre 11. La voix du vénérable aumônier n'avait pas faibli. La cour, les jurés et le public l'écoutaient avec une émotion croissante, et les heures s'écoulaient sans que personne eût remarqué que la nuit approchait. Cependant, il devenait impossible que l'affaire se terminât le jour même, et le président annonça que l'audience était renvoyée au lendemain. La foule se dispersa à regret, et la curiosité était surexcitée à ce point que beaucoup passèrent la nuit sur la place du palais. Aussi, dès l'ouverture des portes, la salle fut envahie par un public plus nombreux que la veille. L'audience semblait du reste devoir être encore plus émouvante. L'intérêt redoublait à mesure qu'on approchait du dénouement, et le point auquel s'était arrêté le dramatique récit de l'abbé Guérin laissait espérer que le mystère de cette sombre histoire allait enfin s'éclaircir. Les accusés reparurent dans le même ordre. Celui sur lequel se dirigeaient tous les yeux, celui dont on commençait à entrevoir l'existence fatale, l'oiseau, montrait un visage plus calme et une contenance moins accablée. La parole de l'aumônier avait relevé son courage et assuré son regard, et la conviction de son innocence gagnait doucement tous les cœurs. Les deux Arabes gardaient l'attitude résignée que le fatalisme donne aux enfants de l'islam en face de la mort. Ils se sentaient perdus, mais ils restaient farouches et indifférents. Un silence profond se fit dans la salle quand le prêtre se leva et continua en ces termes. Paddy considérait Robert avec stupéfaction et faisait le signe de la croix en murmurant une prière. Il le prenait pour un revenant. « Mais tu te trompes pas, mon pauvre Paddy, » lui dit Robert en lui tendant la main. « C'est bien moi. » « Quoi, maître, vous n'êtes pas mort ?» balbutiait l'Irlandais. « Est-ce bien sûr que vous n'êtes pas un spectre ?» Et il reculait instinctivement à mesure que Robert approchait. Celui-ci ne devinait que trop la cause de la frayeur de Paddy. Mais ce n'était ni l'heure ni le lieu de lui faire des reproches, et il importait de l'interroger avant qu'il eût le temps de se remettre. Une auberge apparaissait sur la route à 100 pas plus loin. « Mais tu dois avoir faim et soif, mon vieux camarade !» continua Robert. « Oh oui, oui, soif surtout !» interrompit l'Irlandais. « Eh bien, pour te convaincre que je suis de chair et d'os, comme toi, allons-nous rafraîchir dans ce cabaret. » 10 minutes après, Robert et Paddy étaient attablés dans un petit jardin planté de citronniers qui dépendait de la taverne. Un plat de macaroni fumait sur la table et 2 bouteilles de vin de Capri se dressaient devant eux. C'était le meilleur moyen de délier la langue de Paddy. Ses yeux s'ouvrirent démesurément quand il se vit en face de ce festin inespéré. Oh, il se jeta sur le macaroni avec l'avidité d'un naufragé et il avala à coup sur coup plusieurs verres du plus capiteux des toits d'Italie. Robert ne lui ménageait pas les rasades, mais, avant de le questionner, il voulait lui inspirer de la confiance, en feignant d'ignorer le passé. « Tu t'attendais plus à me revoir, mon vieux Paddy. Et au fait, peu s'en est fallu que je te servisse de déjeuner au requin, » dit Robert en affectant la gaieté. Puis, pour le rassurer tout à fait, il se hâta d'ajouter une explication à peu près plausible. « Oui, j'ai nagé pendant 2 heures et j'ai été ramassé par une barque génoise. Ben, cela m'apprendra à m'endormir dans les haubans après avoir trop bu. Et voilà 3 mois que je cherche le caïman. Ah, ciel! Mais qu'êtes-vous devenu depuis mon accident? Donne-moi des nouvelles du capitaine, de Diego, de Georges. » Pendant que Robert parlait ainsi, Paddy se troublait et pâlissait à vue d'œil. Il grommelait des paroles sans suite en buvant pour se donner du courage. « Oh, maître, ils sont partis. Je suis seul maintenant. Le pauvre Paddy n'a plus personne pour l'empêcher de mourir de soif dans ce maudit pays où on trouve pas seulement une panne de whisky de Belfast. J'ai voulu partir aussi, retourner en Finlande, en Irlande. Mais je n'ai pas de papier pour m'embarquer. Et puis, voyez-vous, le Caïman n'avait pas une bonne renommée. Il fait pas beau dire au consul qu'on a navigué à son bord. » L'ivresse commençait à le gagner et Robert connaissait assez le caractère irlandais pour être sûr que Paddy ne garderait pas longtemps le secret qui lui pesait. « Mais, reprit Robert, moi aussi j'ai navigué sur le Caïman. Et tu sais que si nous y étions, c'était pas de notre faute. Allons, je me charge de te tirer d'affaire, il ne me sera pas dit que j'aurais laissé dans l'embarras un brave matelot comme toi. Mais je veux retrouver mon fils d'abord. Voyons, mon vieux Paddy, dis-moi ce que tu sais, et tu ne t'en retires pas, tu ne t'en repentiras pas, je te le promets. » Le malheureux Irlandais baissait la tête et de grosses gouttes de sueur roulaient sur son front. Tout à coup, il se leva comme un homme qui a pris une résolution et il se mit à parler avec cette emphase et cette volubilité qui sont particuliers aux gens de son pays. « Ben écoutez, maître, s'écria-t-il, j'aime mieux tout vous dire. Paddy est bien pauvre, et le bon Dieu le punit parce qu'il a obéi à ce maudit Saxon des îles. Mais Paddy n'est pas un coquin comme lui, et vous verrez bien qu'on l'a forcé de faire ce qu'il a fait. » Robert comprenait que l'heure des aveux était venue, et il se sentait défaillir à force d'émotion. « Quand vous êtes tombé à la mer, continua l'ivrogne, le jeune monsieur a bien pleuré. Il appelait son père. Il voulait se laisser mourir, mais ils l'ont consolé, les brigands. Oh, s'il avait su! Moi, je savais. J'avais vu ce scélérat de Morgan quand il a sauté sur vous comme un chat sauvage. Mais j'ai rien dit. Je voulais pas lui briser le cœur à ce pauvre monsieur Georges. Il avait déjà assez de chagrin. Et pourtant, c'est moi, maître. C'est moi qui suis cause de son malheur. Toi, Paddy, interrompit Robert, c'est pas possible. Pourquoi aurais-tu fait du mal au fils de l'homme qui t'a sauvé la vie sur les Sorelles? En entendant ce nom, les Sorelles, Paddy leva les bras au ciel, puis il se mit à se promener dans le jardin en gesticulant comme un fou et finit par tomber à genoux en demandant pardon. Le coup avait porté, il était inutile de feindre plus longtemps. « Lève-toi, malheureux, lui cria Robert, et dis-moi la vérité, si tu veux que je te pardonne. Je sais tout, et si tu mens, tu vas mourir comme un chien. » La colère aveuglait le père de Georges. Il serrait un couteau dans sa main, et il fut tenté de tuer sur le champ le misérable complice des assassins de son fils. Paddy tremblait de tous ses membres. Il voulait parler et sa voix s'arrêtait dans sa gorge. Enfin, il se remit et Robert entendit en frémissant l'épouvantable récit qu'il avait deviné depuis longtemps. Pendant la traversée au retour du Brésil, l'Irlandais, qui s'enivrait chaque jour, avait parlé devant Morgan du trésor de l'Avenger. Et dès cet instant, la mort de Robert et celle de Georges avaient été résolues. Diego avait proposé de se défaire d'eux immédiatement. Mais son digne acolyte lui avait fait comprendre qu'il serait difficile d'enlever les barils d'or sans l'aide d'un plongeur expérimenté. Et ils avaient alors combiné un plan infernal. Ils résolurent de supprimer Robert d'abord, d'imputer sa disparition à un accident, de capter ensuite la confiance de Georges afin d'utiliser ses services et de couronner l'œuvre plus tard en tuant l'enfant comme ils avaient tué le père. Et Dieu avait permis le succès de cet horrible drame. Le pauvre Georges, après avoir pleuré longtemps, avait reporté son affection sur les monstres qui l'accablaient de tendresse hypocrite. Morgane et Diego, après avoir payé et congédié leurs matelots, étaient partis pour les Sorelles avec Georges, abandonnant leur navire et n'emportant avec eux que l'argent produit par la vente de leurs nègres. L'Irlandais avait été du voyage parce qu'il pouvait leur être utile et que d'ailleurs il comptait bien se débarrasser aisément d'un complice aussi infâme. Ils s'étaient procuré deux appareils complets de plongeurs qu'ils étaient allés chercher à Malte dans le port de la Valette, pendant que le Caïman les attendait au sud de l'île, dans le petit havre de Mersa Serroco. La scène terrible de l'écueil, Robert l'avait devinée. Paddy ne connaissait que les barils déposés dans la chambre du commandant. Ils avaient été enlevés par Georges et par Diego, qui plongeaient ensemble. Et au dernier voyage, Diego était remonté seul. Morgan avait coupé le tuyau qui portait l'air à Georges, pendant que son large complice liait le corps du malheureux fils d'Hélène dans sa tombe humide. Robert avait écouté le funèbre récit sans dire un mot, sans qu'un seul des muscles de son visage eût tressailli. Paddy, de temps en temps, levait les yeux sur lui. Cette immobilité l'effrayait. À mesure qu'il avançait dans son histoire, il se troublait de plus en plus et se vit d'une voix suppliante qu'il dit en finissant « Au nom de tout ce qu'il y a de plus sacré, maître, j'ignorais, moi, ce qu'il voulait faire du jeune monsieur. Oh, que Saint-Patrick, patron de l'Irlande, me punisse si je mens, que je sois damné comme ce scélérat de Morgan. » Robert l'arrêta d'un geste et lui dit froidement, en le regardant bien en face, « Tout ce que tu viens de me dire, je le savais. Tu as pris part à un crime que Dieu m'a chargé de punir. Et si tu veux que je te pardonne, il faut que tu m'aides à retrouver les assassins. Où sont-ils? Que sont devenus les scélérats que tu as suivis à Naples? » « Les scélérats, maître, mais il n'y en a plus qu'un. » « Que veux-tu dire? Comment, vous ne savez pas? On vous a donc pas raconté l'histoire de la montagne de feu? » « Mais parle, parle donc !» s'écria Robert, qui contenait à peine sa colère et n'espère pas me parier de mensonges. « Il me faut leur vie à tous les deux, et si tu me trompes, je te livre la justice. Tu es leur complice, ne l'oublie pas. » « Eh bien, maître, comment ça peut être dit ?» Effrayé. Voilà l'histoire. Et après que l'affaire fut terminée au Sorel, mais vous me pardonnerez, n'est-ce pas, si je vous parle encore du jeune monsieur? Je demandais pourquoi il ne revenait pas avec nous, car je n'avais pas compris grand-chose à la manœuvre de la pompe à air, et je croyais toujours qu'il allait remonter. Alors Morgan a pris un pistolet, me l'a mis sur la poitrine en me disant « Tu ne le reverras plus, double brute, et si tu souffres d'un mot, je t'envoie le rejoindre. » Oui, je tremblais comme une feuille, et il ajouta « Mais ta part s'augmente d'autant, imbécile, puisque nous ne sommes plus que trois. Mais tais-toi ou je te brûle la cervelle et je jette ta carcasse irlandaise aux poissons. » Le pauvre Paddy, il n'a que sa vie en ce monde, maître. J'ai eu peur et je me suis tué. Et le soir même, nous faisions route pour Naples et deux jours après, nous étions mouillés devant le quai de Sainte-Lucie. Je restai à bord avec Morgane. Diego alla coucher à terre, mais il revint le lendemain, vêtu comme un lord. Il parla longtemps avec Morgane dans une langue que je comprenais pas, et il se retourna à Naples avec un canot qu'il avait loué sur le port. Quand il fut parti, Morgane m'ordonna de lever notre ancre, et nous courûmes débordés dans le golfe en nous rapprochant peu à peu de la pointe du Posilippe. La nuit venue, Morgane, qui tenait la barre, mit le cap sur la terre et nous abordâmes dans un anse qui s'ouvre en face de la petite île de Nacida. Là, je commençai par son ordre à débarquer les sacs d'or l'un après l'autre. Une voiture attelée nous attendait sur la route qui longe la mer, et sur le ciel, je reconnus Diego, déguisé en cocher. Il m'aida à charger l'or dans les coffres du carrosse, et quand ce fut fini, il me dit de jeter ma veste et mon chapeau de marin, d'endosser sa livrée et de prendre les rênes à sa place. Alors, sous les habits de cocher, oh, il avait un beau costume de la veille. Morgane quitta aussi sa tenue de marin pour des vêtements de seigneur que Diego avait apportés. Ils montèrent tous deux dans la voiture et ils me dirent de toucher du côté de Naples. Heureusement, je savais conduire parce que chez nous, en Irlande, je soignais les chevaux de l'évêque de Belfast avant d'être embarqué de force sur la Vengeur, et que maudit soit le cabaret où le diable me conduisait ce jour-là. Mais achève, au nom de Dieu, interrompit violemment Robert, que son bavardage exaspérait. Pardon, maître, pardon. Oh, je voulais dire seulement que les coquins avaient besoin de moi, sans quoi ils m'auraient noyé avec la barque, car Morgane y fit un grand trou avec une hache et elle coula. Oh, je connaissais pas le chemin, mais ils me criaient par où il fallait tourner. En moins d'une heure, nous étions à Chiaia, à l'entrée de la Villa Reale, et on me dit d'arrêter devant un palais qui paraissait pas habité du tout. Morgane et Diego descendirent, ils ouvrirent la porte du jardin et la voiture entra. Je pense que la veille, Diego avait loué le palais en se faisant passer pour un lord anglais et qu'il l'avait payé d'avance. Le lendemain, Morgane me signifia que je serais leur valet de chambre jusqu'au moment où ils pourraient s'embarquer pour l'Angleterre, et qu'on ne me donnerait pas ma part que sur le navire. Et bientôt, il vint des domestiques, des cochers, des maîtres d'hôtel. Notre maison était mieux montée que celle du Lord Lieutenant d'Irlande, et tous ces gens-là me respectaient parce que on savait que j'étais l'homme de confiance de leur seigneurie. Robert mourait d'impatience, mais il ne put s'empêcher de sourire à ce trait naïf de vanité irlandaise. Et Paddy, plus rassuré, continua imperturbablement. Ben, il venait aussi des banquiers avec lesquels il s'enfermait et qui finalement emportèrent des sacs d'or. Mais Morgane me dit qu'il y avait des papiers pour moi et que j'aurais, tant que je vivrais, ma pinte de whisky assurée et du roast beef et des pommes de terre. La figure de Robert reprit une expression plus sévère. Et Paddy se hâta de revenir à son récit. Mais Morgane et Diego, reprit-il, avaient l'air de vivre en bonne intelligence. Mais je savais que le diable n'y perdait rien, comme on dit, car j'avais surpris plusieurs fois Diego qui regardait son oncle d'un mauvais regard. Et au bout de 2 mois à peu près, il paraît que toutes nos affaires étaient réglées avec les banquiers. Car on me dit que nous partirions bientôt pour Londres, et j'étais bien content de quitter ce chien de pays. En attendant, nous allions tous les jours nous promener en voiture dans les environs. Je montais sur le siège à côté du cocher, et j'avais tout à fait bonne mine avec ma belle livrée. Une fois, les maîtres voulurent aller visiter cette montagne qui jette du feu et qui doit être bien sûr un soupirail de l'enfer. Ben, j'avais grand-peur d'en approcher, mais on ne voulut jamais me laisser seul à la maison, fallait bien marcher. Nous étions venus en calèche jusqu'à ce village qu'ils appellent Portici, et là ils louèrent des chevaux et des guides pour grimper sur cette maudite fournaise. Si vous voulez aller voir couler cette rivière enflammée qui descend du haut de la montagne, tenez, maître, on l'aperçoit d'ici. Et il montrait du doigt une large tache rouge qui brillait dans la nuit sur le flanc du Vésuve. C'était une mauvaise envie qu'ils avaient là, continua Paddy. Mais je leur avais bien dit que le diable même pas qu'on aille lui regarder sous le nez. Alors nous montâmes tant que les chevaux voulurent nous porter. Mais en approchant du feu, les pauvres bêtes commencèrent à souffler et à renâcler, si bien qu'il fallut descendre. Alors on les laissa à la garde des guides qui nous recommandèrent bien de ne pas nous approcher, et je partis à pied avec mes maîtres. Nous marchions sur des pierres noires à peine refroidies. J'aurais donné de bon cœur une guinée pour m'arrêter, mais Morgane me traita de poltron, et il n'eut pas de repos jusqu'à ce que nous fussions arrivés tout à fait sur le bord de cette lave, comme ils appellent la rivière de feu. Elle coulait à 6 pieds au-dessous de nous, lentement, lentement, avec un bruit de fournaise et une grosse fumée qui nous aveuglait. C'était comme de la pâte dans le pétrin d'un boulanger, ou bien comme la fonte quand on coule des barres de fer aux forges de Tynemouth. C'était pas curieux du tout, là. Mais les maîtres avaient l'air de se plaire à regarder cette boue diabolique. Il s'était avancé tout à fait sur le bord et Morgan me dit d'aller chercher une bouteille de rhum qui était restée dans le sac d'un des guides. Il voulait boire un coup à la santé du diable à la porte de sa cuisine. Ce furent ses propres expressions au maître et lui ont pas apporté bonheur. Je ne me le fis pas dire deux fois et je rebroussai chemin aussi vite que je pus. Mais je n'avais pas fait 10 pas. Que j'entendis un cri, oh, un cri, maître, comme on doit en pousser en enfer. Je me retournai et je vis sur le bord Diego, tout seul. J'avais bien peur, mais pourtant je courus à lui et je regardais, oh, maître, ce que je vivrai 100 ans que je ne pourrai pas l'oublier. Morgane était enfoncé jusqu'aux genoux dans la lave, qui coulait en s'amassant et en montant peu à peu le long de ses cuisses. Il était tombé debout, comme s'il avait sauté, pieds joints. On aurait dit une âme du purgatoire dans les flammes, comme on en voit sur les images dans nos chaumières d'Irlande. Il poussait des hurlements qui me firent dresser les cheveux, et sa figure se tordait comme celle d'un damné. Oh, ce fut pas long. Il sortit de cette boue ardente un long jet de flamme qui enveloppa Morgane jusqu'à la tête, et puis il s'abattit comme un arbre qu'on a coupé par le pied. Les jambes brûlées jusqu'à l'os ne pouvaient plus le soutenir. Il se coucha en long, puis il s'enfonça, et je ne vis plus rien. Seulement une bouffée de fumée s'élança de la place où il avait disparu, comme quand on jette dans le feu une poignée de poudre. Robert écoutait, muet d'horreur, cet affreux récit que Paddy lui faisait de sa voix la plus calme. Dieu s'était donc chargé de la moitié de sa vengeance, et l'infâme Morgane avait péri par la main de son complice, car Robert ne doutait pas qu'il eût été poussé dans le gouffre. Sans s'apercevoir de son émotion, l'Irlandais continua. « Oui, vous, maître, quand ce fut fini, je crus que ma dernière heure était arrivée, car Diego avait une figure terrible. me regardait avec des yeux de bête féroce, comme s'il avait voulu me jeter aussi dans le feu. Car je ne vous l'ai pas dit, mais je suis bien sûr que c'était lui qui avait poussé Morgane. Je me mis bien vite à courir du côté des chevaux, mais j'entendis qu'on m'appelait pour mon nom et, en me retournant, je vis Diego avec sa mine ordinaire. « Quel malheur !» disait-il tranquillement, « et comme t'avais raison, mon pauvre Paddy, de nous conseiller de ne pas venir ici. Allons retrouver les guides. T'as bien compris l'accident, n'est-ce pas? Tu m'aideras à le leur expliquer. » Ben, j'avais compris, en effet, j'avais bien trop peur de lui pour le contredire. Les guides déclarèrent unanimement qu'ils nous avaient avertis du danger et qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Et à Portici, nous fîmes notre déclaration. Oh, je pensais qu'on allait ouvrir une enquête, mais dans ce pays de sauvages, il n'y a pas de coroner comme chez nous. Et le podestat du bourg ne jugea pas à propos de se déranger. Alors, nous rentrâmes à Naples, où la nouvelle se répandit promptement. Je n'étais pas rassuré. Je me trouvais trop de secrets sur la conscience. Diego me faisait trop bonne mine pour m'empêcher de parler, mais je crois bien qu'il aurait fini par se défaire aussi de moi. Il pensa peut-être que je n'avais pas les peines qu'on me tua et que la fin se chargerait de m'envoyer dans l'autre monde. Car une nuit, pendant que je dormais, il quitta l'hôtel et il ne revint pas. Il avait réglé tous ses comptes avec les banquiers et il était parti sur un bateau qui allait à Constantinople. Les autres domestiques étaient payés et congédiés, mais moi, je restais sans un sou. Le propriétaire du palais vint le jour même, me mettant à la porte, et je me trouvais encore bien heureux qu'on m'eût laissé ma livrée, car je la vendis pour acheter de quoi manger. Donc je pensais d'abord à dénoncer ce coquin de Diego, mais je réfléchis que je pourrais bien me trouver compromis, et je jugeais prudent de me taire. Et voilà un mois bientôt que le pauvre Paddy couche à la belle étoile, avec les haillons que vous voyez, et qu'il vit de pastèques et d'eau claire. Oh, s'il ne vous avait pas rencontré, maître, il serait mort, et tant qu'il vivra, il vous sera dévoué comme un chien. » Robert avait écouté avec une émotion profonde cette épouvantable histoire. Les renseignements qu'un hasard providentiel venait de lui envoyer devaient lui suffire pour retrouver Diego, et Paddy, quoiqu'il ne lui inspirait pas encore une confiance entière, pouvait être d'un grand secours dans la poursuite qu'il voulait entreprendre. Décidé à se l'attacher tout à fait, Robert lui remit quelque argent et lui dit de venir le trouver le lendemain dans un hôtel dont il lui donna l'adresse. Il était bien sûr qu'il ne manquerait pas au rendez-vous et il voulait éviter de lui faire connaître sa barque. Le moment était venu d'abandonner l'existence de pêcheur pour entrer dans la vie ordinaire et Robert s'occupa d'abord de mettre le trésor en sûreté. John, auquel il raconta la rencontre de Paddy, se chargea de débarquer l'or, sac par sac, et de le lui apporter à la Villa Combi où il s'installa dès le lendemain. 15 jours suffirent au vieux Sauf pour transporter cette fortune à terre, et Robert convertit immédiatement la somme en une lettre de crédit délivrée par la maison Rothschild de Naples sur tous ses correspondants en Europe. Il s'assura que Paddy avait dit la vérité et que Diego s'était réellement embarqué pour Constantinople. La mort tragique de Morgane avait fait grand bruit à Naples, mais personne n'avait pensé qu'elle fût le résultat d'un crime. Et on avait attribué le brusque départ de son ami au chagrin que lui avait causé un si affreux accident. Robert prit à son service l'Irlandais, que la joie et le bien-être avaient transfiguré. Mais il chargea John Sloth de le surveiller, car il se défiait toujours de son penchant à l'ivrognerie. Ainsi, armé de toutes pièces pour commencer la poursuite de l'assassin de son fils, Robert s'embarqua avec Sloth et Paddy sur le paquebot français qui faisait le service entre Naples et la Turquie. En arrivant à Constantinople, la première nouvelle qu'il apprit, ce fut le départ de Diego. Il avait quitté Péra depuis 3 jours pour gagner l'Égypte par terre en compagnie d'un Français qu'il avait rencontré à l'hôtel d'Angleterre. Robert ne pouvait guère songer à le joindre dans ce voyage à travers l'Asie mineure et la Syrie, au milieu d'une escorte et en présence d'un étranger. Il lui parut plus sûr d'aller l'attendre à Alexandrie. Mais sa vengeance devait être encore différée. Après 2 mois de séjour en Égypte, Robert apprit que 2 voyageurs s'étaient embarqués à Beyrouth pour entrer directement en France et que l'un d'eux se faisait appeler M. de Pancorvo. C'était le nouveau nom choisi par Diego. Robert n'hésita pas et partit sur le champ pour Marseille. En débarquant, il sut que le bateau de Beyrouth l'avait précédé de 8 jours. Évidemment, Diego s'était dirigé sur Paris, et c'était là seulement que Robert était certain de le retrouver. Il allait donc enfin se trouver face à face avec l'ennemi qu'il poursuivait depuis si longtemps. Mais, à mesure que la vengeance s'approchait, il la voulait plus sûre et plus éclatante. Il avait d'abord pensé à se battre avec Diego après lui avoir jeté à la face tous ses crimes, mais la mort dans un duel n'était pas une expiation suffisante du passé. L'échafaud, ce n'était pas trop pour un monstre 4 fois assassin. Robert voulait le bourreau pour le meurtrier de Georges. Il voulait saisir Diego encore tout sanglant de quelque nouveau forfait et le traîner devant la justice. Robert était bien sûr que le misérable ne s'arrêterait pas sur le chemin du crime et qu'il viendrait au-devant du châtiment. Il résolut de le suivre dans l'ombre jusqu'au jour où il pourrait le prendre en flagrant délit. Il arrêta son plan avec John et ils se partagèrent les rôles dans cette chasse au meurtrier. Le temps et la douleur avaient changé Robert au point de le rendre méconnaissable, et d'ailleurs il possédait une facilité naturelle pour modifier l'expression et même les traits de son visage. Il pouvait donc surveiller Diego d'autant plus aisément que celui-ci le croyait mort. Il ne s'agissait que d'adopter un costume et une profession qui permissent de l'approcher sans exciter ses soupçons. Robert destinait un autre rôle à Paddy Casson. Diego devait croire l'Irlandais trop abruti pour se défier beaucoup de lui et, s'il réussissait à l'introduire dans sa maison, on aurait un ami au cœur de la place. Quant à John, qui était parfaitement connu de Diego, il devait se tenir en dehors de l'action et dissimuler soigneusement sa présence à Paris. Robert se réservait de l'utiliser au moment où sa vengeance serait mûre. Il lui fallait encore un domicile qui fût à l'abri des indiscrétions et des recherches, une retraite sûre où il pût se reposer de la terrible tâche qu'il allait entreprendre. Il pensa à la maison de Montmartre, qui par bonheur n'avait pas été vendue, et en arrivant à Paris, son premier soin fut de courir chez le notaire qui avait été chargé autrefois de ses intérêts. Celui-ci reconnut son client avec quelques difficultés, mais les détails que Robert lui donna finirent par le convaincre de son identité. Robert lui raconta qu'il arrivait des Antilles, où ses affaires le retiendraient encore longtemps, et que, se proposant de faire seulement un court séjour en France, il désirait, par économie, habiter son ancienne maison, en quelque état qu'elle fût. Le notaire l'avertit qu'il la trouverait fort délabrée, aucune réparation n'ayant été faite depuis son départ, puis il lui remit les clés et, par une triste journée d'automne, Robert s'achemina vers Montmartre. Ce ne fut pas sans une profonde émotion qu'il revit le lieu où vivait pour lui de si chers et si douloureux souvenirs. Le temps et la solitude avaient passé là. Le jardin, abandonné à lui-même, s'était couvert de broussailles. Les grilles vermoulues semblaient prêtes à se rompre et la maison menaçait ruine. Avant de franchir le seuil, Robert rappela tout son courage. Une crainte superstitieuse l'arrêtait à l'entrée de cette terrasse où il avait vu expirer dans ses bras celle qu'il avait tant aimée. Il lui semblait que l'ombre d'Hélène et celle de Georges erraient au pied des grands arbres. Il les appelait tout bas, et dans le murmure des feuilles agitées par le vent d'automne, il croyait entendre leur voix. Il entra. Rien n'était changé. La chambre d'Hélène était restée telle qu'elle était le jour de sa mort, et Robert fondit en larmes en reconnaissant son coffret de mariage, ce coffret dont elle lui avait remis la clé en lui disant adieu. C'était bien là l'asile qu'il lui fallait. C'était bien là qu'il voulait vivre entre les souvenirs du passé et l'espoir de la vengeance. Avec l'aide de John, il eut bientôt terminé les arrangements indispensables. Il s'établit au second étage de la maison et il réserva la chambre d'Hélène pour y prier, pour y retremper son courage dans la douleur. Robert y rassembla tous les objets qui avaient servi à la pauvre femme. Il y plaça aussi une douloureuse relique qu'il avait rapportée des Sorelles, le costume de plongeur dans lequel Georges était mort. Il le dressa contre une tenture noire, debout comme il l'avait vu dans la cabine de la Ranger. Si Robert avait pu jamais oublier le crime et la vengeance, la lugubre dépouille de son fils les lui aurait rappelés. John Slough alla s'installer à Passy, où il loua un petit appartement, et afin d'expliquer son isolement, il se vit passer pour un Anglais atteint du spleen. Il gardait Paddy comme domestique jusqu'au jour où on pourrait l'employer utilement ailleurs. Chacun se mit en quête d'informations et on eut peu de peine à en recueillir. Diego, se croyant assuré de l'impunité, n'était pas homme à vivre dans l'ombre. Et au bout de 8 jours, Robert connaissait son nom, sa demeure, ses habitudes et ses relations. Le temps était arrivé d'utiliser les services de Paddy. Sa conduite était devenue irréprochable et Robert ne doutait plus de sa fidélité. Il fut convenu qu'il se présenterait pauvrement vêtu chez Diego, qui certainement le recevrait, ne fût-ce que pour l'interroger. L'histoire qu'il devait raconter était convenue d'avance. Il était arrivé de Naples à Paris en mendiant sur la route. Il mourait de faim et il suppliait Diego de le reprendre à son service. Pas de récrimination contre l'abandon au palais de Chiaia, et surtout pas d'allusion à un passé dangereux. Robert était convaincu que le faux Pancorvo mettrait cet oubli sur le compte de l'insouciance irlandaise et qu'il n'aurait aucun soupçon. Il espérait même que, par mesure de précaution et pour ne pas perdre de vue l'homme qui possédait une partie de ses secrets, Diego prendrait Paddy à son service. Et les choses se passèrent exactement comme Robert l'avait prévu. Paddy fut longtemps interrogé. Il répondit avec cet air de naïveté que les Irlandais savent si bien prendre, et finalement Diego l'attacha à sa maison. Robert avait ainsi des intelligences au cœur de la place ennemie, et les rapports ne se firent pas attendre. Diego avait organisé sa vie de façon à dérouter toutes les recherches. Sa maison se composait de deux domestiques qu'il avait ramenés du Levant et qui ne comprenaient absolument que l'arabe, moyen très commode d'éviter les indiscrétions. Il vivait du reste fort peu chez lui, passant la plus grande partie de son temps dans un cercle où il s'était fait admettre, et ne recevant personne dans l'intimité, mais il menait grand train au dehors et dépensait certainement beaucoup d'argent. C'était précisément ce que souhaitait Robert. Il savait bien que le misérable viendrait promptement à bout de l'or de l'Avenger et qu'il en demanderait d'autres à quelque nouveau crime. Robert attendit, sûr que le châtiment viendrait à son heure, mais il voulut surveiller Diego de plus près, et il chercha un poste qui le mit en contact journalier avec lui, sans l'exposer à être reconnu. C'est alors qu'il eut l'idée d'entrer comme valet de chambre au cercle que fréquentait le prétendu monsieur de Pancorvo. Il coupa sa barbe et ses cheveux, composa son visage, et parvint à se rendre méconnaissable. Oh, il eut d'ailleurs peu de peine à se procurer des certificats et des recommandations. On trouve tout à Paris avec de l'argent. Et Robert en avait beaucoup, car sa lettre de crédit était à peine entamée. Il fut admis au cercle sans difficulté, et dès son entrée en fonction, il eut lieu d'être rassuré. Diego ne le reconnaissait pas, car il eut 100 fois l'occasion de le servir et jamais le noble monsieur de Pancorvo ne fit la moindre attention à sa figure de valet de chambre. 6 mois se passèrent ainsi. Robert s'était arrangé une double existence. Il avait pris un domicile à Paris, dans le voisinage du cercle, mais chaque nuit il allait dans la maison abandonnée, s'enfermer avec les souvenirs de ses morts aimés. Paddy trouvait moyen de s'échapper souvent pour venir lui rendre compte de sa surveillance. John Sloth faisait aussi quelquefois le voyage de Montmartre, et l'isolement du lieu se prête si bien au mystère que jamais personne n'a surpris ses entrevues nocturnes. Vers la fin de l'été, l'Irlandais apporta à Robert des nouvelles favorables à ses projets. Diego paraissait éprouver des embarras d'argent. Paddy avait été chargé par son maître de suivre quelques membres du cercle et d'observer leurs habitudes. Il avait mission de s'assurer tout spécialement de l'itinéraire qu'ils suivaient pour rentrer chez eux la nuit. Peu de jours après, un honorable membre du cercle était arrêté et dépouillé en sortant du jeu. C'était précisément un de ceux que Paddy était chargé de pied, et Robert ne douta pas un seul instant qu'il eût été attaqué et volé par Diego. Pour qu'il eût recours à de semblables moyens, il fallait que ses embarras fussent déjà bien prononcés, et il était certain qu'il n'en resterait pas là. Robert résolut de le surveiller plus strictement que jamais, et de le faire arrêter en flagrant délit. Bientôt, il eut pénétré son système d'attaque nocturne. Monsieur de Pontcorvo observait chaque soir les joueurs qui gagnaient, et comme il était renseigné sur leurs habitudes par les rapports de Paddy, il lui était facile d'aller les attendre au coin de quelques rues désertes. Là, le coup du jaguar qu'il avait appris de Morgane lui servait à terrasser et à étrangler à la fois le malheureux passant qui se trouvait dépouillé avant d'avoir vu la figure du voleur. Sur ces entrefaites arriva un événement qui influa beaucoup sur le dénouement de cette histoire. Au nombre des membres du cercle se trouvait l'homme généreux qui, naguère en Provence, avait fait don de 500 francs à Robert après sa condamnation. Il ne reconnut pas, sous la livrée d'un valet de chambre, le mystérieux prisonnier du Cap Camara. Mais celui-ci n'avait pas oublié son bienfaiteur et souhaitait vivement s'acquitter sa bête de reconnaissance. L'occasion se présenta trop tôt et tout autrement qu'il ne l'aurait désiré. Une nuit, Robert devina que Diego se proposait d'attaquer ce bienfaiteur que le sort avait favorisé au jeu. Il voulut le sauver et ne put y réussir, et l'impossibilité où il se trouva de le protéger lui inspira de graves réflexions. Il se demanda s'il avait bien le droit de laisser un scélérat entasser les crimes sur les crimes alors qu'il dépendait de lui de l'arrêter. L'intérêt de sa vengeance était-il sacré au point de légitimer son silence? Robert commença à en douter et il chercha un moyen d'en finir avec Diego. Pour le livrer à la justice, il fallait des preuves matérielles, car la situation apparente du scélérat le protégeait contre une accusation qui ne serait pas parfaitement justifiée. D'ailleurs, pour l'assassinat de Thomas Disney, l'heure de la prescription avait sonné depuis longtemps et l'impunité était acquise au meurtrier. La mort de George, celle de Morgan, n'était jusqu'à preuve contraire que des accidents, et cette preuve, Robert ne pouvait pas la fournir. Mais il y avait, dans le sinistre passé de Diego, une mort assez récente pour que la justice pût encore lui en demander compte. « Si jamais, avait dit Hélène avant de mourir, le monstre qui a tué mon père et ma sœur menaçait la vie de mon fils, qu'il subisse le châtiment de ses crimes. Les preuves sont là, dans mon coffret de mariage. » George était mort, hélas, et son père avait bien des fois demandé pardon à Dieu de la coupable faiblesse qui l'avait empêché d'user de cette arme suprême. Mais l'heure des regrets était passée et celle de la justice était venue. Robert ouvrit enfin ce coffret qui lui rappelait les jours heureux de sa jeunesse. Il toucha en tremblant ces reliques d'un passé évanoui sans retour. Le coffret contenait la couronne de mariage d'Hélène, la Bible de sa mère, une boucle de cheveux de Georges et enfin des papiers jaunis par le temps dont l'aspect singulier surprit beaucoup Robert. C'était un cahier de forme longue, pareil à ceux dont se servent les écoliers. Sur certaines pages, une écriture ferme et régulière avait tracé des phrases sans suite et des mots isolés. Sur les pages, en regard, une main inexpérimentée avait essayé de les reproduire. C'était ce qu'on nomme en langage de collège un cahier d'exemple. Et il ne paraissait pas que l'élève qui s'en était servi fût habile, car les mêmes phrases se trouvaient copiées péniblement en plusieurs endroits. Au troisième feuillet, 5 lignes écrites en gros caractères attirèrent l'attention de Robert, qui reçut au cœur une commotion violente. Il venait de reconnaître l'écriture de Diego et il avait lu ces mots qui, après 6 années, étaient encore gravés dans sa mémoire. « Je demande pardon à Dieu de me donner la mort. On trouvera mon corps dans la Seine. Je veux être enseveli avec la robe blanche que je portais le jour de mon mariage. » C'étaient les propres termes de cette fatale lettre où Mary annonçait son suicide. Sur les pages suivantes, la phrase était reproduite bien des fois, en lettres d'abord informes, puis plus correctes, puis enfin très lisibles. Et ces lettres, c'était Mary qui les avait tracées. Une dernière page manquait, elle avait été coupée avec des ciseaux. Le voile se levait enfin, et la lumière éclairait après 6 années le drame mystérieux de Saint-Ouen. Le misérable Diego avait ourdi sa trame infernale avec la patience féroce de l'araignée qui tend sa toile. Les leçons qu'il donnait à sa femme, c'était le piège où elle devait se prendre elle-même, et il avait su amener sa victime à son propre arrêt de mort. La pauvre et naïve Mary, après avoir tracé pendant des mois entiers des phrases qu'elle ne comprenait pas, avait fini par écrire lisiblement la lettre qui assurait l'impunité à son assassin. Ah, Robert comprenait tout. Le jour où Diego avait eu en sa possession ces lignes fatales, il avait attendu Mary au bord de la Seine, sur la berge où elle aimait à se promener le soir. Là, profitant des leçons de Morgan, il s'était caché sous les saules en rampant comme une bête fauve, et d'un seul bond, le bond du tigre, il avait précipité sa victime. Ce pauvre cahier, plein d'études enfantines, expliquait l'œuvre de l'assassin. Ses pages oubliées chez Lene criaient vengeance, et sous ses phrases puériles, Robert voyait du sang à chaque ligne. Hélène avait raison. La preuve était complète. Après cette découverte, Robert passa la nuit au milieu des souvenirs de ses morts. Il évoqua leurs ombres adorées pour leur demander de l'inspirer et de le soutenir à l'heure prochaine du combat suprême. Quand le jour se leva, il avait pris une résolution. Cette résolution, dit le vénérable aumônier, vous allez la connaître, la juger, et j'en ai l'espoir, l'absoudre. Il fallait agir sans perdre un seul jour, et quand Robert se retrouva encore une fois devant l'odieuse nécessité d'envoyer au bagne ou à l'échafaud cet homme qu'il avait appelé son frère, encore une fois il hésita. Dans cette chambre mortuaire, toute pleine du souvenir de ceux qu'il voulait venger, une voix lui cria d'être l'exécuteur, comme il avait été le juge, et Robert résolut d'offrir un duel à Diego, afin de le tuer ou de mourir de sa main. John s'étonnait des scrupules de son maître, mais sa fidélité ne discutait pas, et son dévouement était absolu. Robert arrêta avec lui le plan du combat. Proposer à Diego un duel dans les conditions ordinaires, il n'y fallait pas penser. Quel motif donner à une rencontre publique, à moins d'évoquer l'horrible passé que Robert voulait ensevelir à tout jamais dans l'ombre? Comment faire du valet de chambre, l'oiseau, un adversaire acceptable pour un gentilhomme tel que M. de Pancorvo? Il fallait que le combat fût sans merci. Il fallait qu'il fût loyal. Il fallait de plus forcer Diego à l'accepter. Si Robert réussissait à l'amener chez lui et à se battre devant 2 témoins sûrs, toutes ces complications étaient remplies. Il se décida à tenter ce moyen et il chercha un prétexte pour décider Diego à se rendre dans cette maison de Montmartre, qu'il n'avait certainement pas oublié. Un seul mobile avait pris sur cette âme de boue, et ce mobile était l'amour effréné de l'or. Et Robert lui fit écrire par John en anglais les lignes suivantes. « On a une communication très importante à faire à M. de Pontcorvo au sujet de sommes qui dépendent de la succession de M. Disney, son beau-père. » Si monsieur de Pontcorvo veut être renseigné à ce sujet, il devra se rendre demain soir, entre 11 h et minuit, à la maison que feu monsieur Robert Byrd habitait il y a 6 ans à Montmartre. La petite porte en bas du jardin restera ouverte toute la nuit, et celle de la maison s'ouvrira au nom de Palmer. Si monsieur de Pontcorvo craint de venir seul, il pourra se faire accompagner par un de ses domestiques. » Et Robert le fit signer, un ancien serviteur de la famille. Mais il n'était pas difficile de conjecturer que cet être exciterait la curiosité et probablement la cupidité de Diego. Dans la situation où il se trouvait, toute occasion de ce genre avait chance d'être saisie avec empressement, et si le choix du lieu du rendez-vous était de nature à le préoccuper, c'était une raison de plus pour qu'il voulût éclaircir un mystère inquiétant. Robert était à peu près sûr aussi que Diego ne viendrait pas seul et qu'il amènerait avec lui Paddy Cassan, plutôt que d'initier à ses secrets un autre domestique. C'était précisément ce qu'il souhaitait. Il employa le temps qui lui restait à tout préparer pour cette nuit suprême. Il avait des armes, il les mit en état et les disposa dans la chambre d'Hélène. Il réunit John et Paddy et leur distribua les rôles. John devait se charger d'ouvrir la porte du rez-de-chaussée à Diego, le conduire dans la chambre du premier étage et assister au duel. Paddy, s'il accompagnait son maître, serait le second témoin de ce combat mortel. John transporta dans son domicile à Passy tout l'argent que Robert avait chez lui, et son maître lui remit un testament par lequel il réglait l'emploi de la somme déposée en son nom chez Rothschild. Quand tous ces préparatifs furent terminés, Robert ne pensa plus qu'à bien combattre et, s'il le fallait, à bien mourir. Il était calme et confiant parce que sa cause était juste. Dans la journée, Paddy trouva moyen de le faire demander au cercle pour lui dire que Diego l'avait prévenu de se tenir prêt à l'accompagner le soir même à 11 h. Robert avait déjà la certitude que la première partie de son plan allait se réaliser selon ses prévisions. La nuit arriva, il quitta son service et se rendit à Montmartre où John l'attendait. Tout était prêt. Dans la chambre d'Hélène, des épées et des sabres étaient préparés sur une table. Les autres meubles avaient été enlevés afin de laisser une place suffisante pour le combat. Le costume de plongeur qui avait servi de linceul à Georges était resté debout au fond de la chambre. Le cahier de Mary et le testament de Disney étaient placés à côté des armes. La nuit était obscure et une tempête passait sur Paris. Robert était assuré que nul ne viendrait troubler l'œuvre qui allait s'accomplir. Il envoya John à son poste dans la salle du rez-de-chaussée et il s'agenouilla pour adresser à Dieu une dernière prière. Les 3/4 avant minuit venaient de sonner à la vieille église de Montmartre quand le bruit sec d'un coup frappé à la porte fit tressaillir Robert. Il ferma les volets qu'il avait laissés entr'ouverts pour que l'absence de lumière ne se fît pas croire à Diego que la maison était inhabitée et il écouta. La porte s'ouvrit. Robert distingua le pas de 2 hommes et il entendit une voix railleuse qu'il reconnut parfaitement. « Ah ah, c'est toi, John !» disait Diego. « Mais tu as grisonné, mon vieux loup de mer. Mais j'ai bonne mémoire et je te reconnais quand même. Ah ça, tu as donc découvert la cachette du père Tom ? J'avais toujours pensé que le bonhomme avait un magot enterré quelque part. » Mais nous allons en causer à fond. Mais quel diable d'idée de me faire venir dans cette masure par un temps pareil? C'est dû qu'on est très mal ici pour parler d'affaires. Si vous voulez monter, Sir Diego, répondait John, il y a là-haut une chambre où nous serons mieux. Soit, montons, mais pas de farce, hein, vieux marasouin. Oh, je te préviens que j'ai dans ma poche un chien qui aboie et qui mord en même temps, et puis voilà un honnête Irlandais qui a des poings solides. Robert entendit le craquement de la batterie d'un pistolet, puis le bruit des pas qui montaient l'escalier. La porte s'ouvrit et Diego parut sur le seuil. Paddy le suivait. John entra le dernier, referma la porte derrière lui. Robert était debout au fond de la chambre et la lampe suspendue au plafond le laissait dans l'ombre. Diego ne l'avait pas vu. Il regardait autour de lui d'un air soupçonneux et se tournant tout à coup vers John, « Allez, j'ai pas de temps à perdre, » dit-il brusquement. « Raconte-moi ton affaire et parle vite, si tu tiens à ta vieille carcasse. » Robert fit deux pas et arriva en pleine lumière. Il avait revêtu un habit de marin pareil à celui qu'il portait sur l'Avenger. Il avait coupé ses favoris et en quittant pour toujours son rôle et sa livrée de valet, il avait repris son visage d'autrefois. Diego recula d'un pas et porta vivement la main à la poche de son paletot pour y prendre son pistolet. Mais avant qu'il eût le temps de le diriger sur Robert, John lui avait saisi le bras et lui avait arraché l'arme. « Ah, ah, mes maîtres, un guet-apens !» dit le lâche coquin qui pâlissait déjà. « À moi, mon brave Paddy !» Mais au lieu de venir à son secours, l'Irlandais s'était adossé à la muraille et se croisait les bras. Diego commençait à comprendre. Il promenait autour de la chambre un regard effaré et tournait sur lui-même comme un loup pris au piège en cherchant de l'œil une issue. John s'était placé devant la porte qu'il barrait tout entière de son corps. La fuite était impossible. Alors les muscles du visage de Diego se contractèrent. On voyait qu'il faisait sur lui-même un violent effort. Quelques secondes après, ses traits avaient repris un air gai et un sourire forcé errait sur ses lèvres. Le misérable voulait encore une fois essayer de la ruse et il s'avançait vers Robert en lui tendant la main. « Quoi, mais c'est toi, mon pauvre Bird ?» disait-il d'une voix qu'il s'efforçait de rendre calme. « Mais par quel prodige es-tu encore de ce monde ?»« Dieu qui a fait ce miracle, Diego, m'a donné une mission, et c'est pour la remplir que je t'ai fait appeler ici. »« Une mission, vraiment, et laquelle ?» reprit-il en ricanant, car l'assurance lui revenait peu à peu. « J'ai des comptes à te demander. »« Oh, si ce sont des comptes d'argent, tu tombes mal, cher ami, car je ne suis pas en fond. Et s'il s'agit du produit de notre opération du caïman, oh, je t'avoue que nous l'avons liquidé sans toi. Que veux-tu ? Tu étais tombé à la mer et nous ne pensions bien et nous m'en noyer. Ce cher Morgan et moi, nous avons naturellement hérité de la part qui te revenait, mais... Si le cœur t'en dit, nous pouvons recommencer les voyages au Brésil. » Tant d'audace révoltait Robert, qui ne s'attendait pas à cet excès d'impudence. Mais il était trop bien affermi dans sa résolution pour se laisser désarmer par des sarcasmes. « Non, 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 les comptes que tu me dois sont d'une autre nature. Tais-toi et écoute. Il y a 25 ans, Thomas Disney fut lâchement égorgé pendant son sommeil. Oh, l'assassin avait bien pris ses précautions, et le crime est resté impuni. Mais Dieu frappe tôt ou tard. L'assassin, le voici. Robert le toucha du doigt, et le misérable tressaillit à ce contact, comme s'il eût senti la main du bourreau. Il essaya de grimacer encore un sourire en disant « Mais tu es fou, Robert. Ou as-tu oublié que la nuit du crime, nous dormions tous les deux dans l'auberge de Cogolin ?»« Non, non, je ne suis pas fou, et je n'ai rien oublié. Voici le testament que tu as volé après le meurtre. Regarde, il est encore taché de sang. » Diego reculait à mesure que Robert s'approchait en lui tendant le papier, où de larges traces noirâtres apparaissaient çà et là. « Non, non, je n'ai rien oublié. Et si j'avais besoin d'une autre preuve, dans ce village que tu as quitté la nuit pour aller tuer l'homme qui t'appelait son fils, oh, je saurais retrouver les débris de cet infernal instrument qui a supprimé la distance pour te faciliter le meurtre. » Diego pâlit et voulut balbutier quelques mots qui s'arrêtèrent dans sa gorge. Robert continua. « Il y a 6 ans, Mary, ma sœur, la sainte créature qui t'avait choisi, toi, misérable vagabond, sans famille et sans fortune, pour te donner son cœur et sa vie, Mary a péri d'une mort affreuse. Bien l'assassin qui lui avait tendu un piège infâme est resté impuni. Et cet assassin, c'est encore toi. » Il tressaillit et cria d'une voix étranglée. « Mais tu mens, Marie est morte volontairement, tu le sais, tu as vu la lettre. Regarde. » Et Robert lui montrait le cahier accusateur ouvert à la page écrite de sa main. Les yeux de Diego s'ouvrirent démesurément et une rage sourde contracta ses lèvres. « En tuant Marie, reprit Robert, du même coup tu avais frappé Hélène. Elle est morte là, dans cette chambre où je t'ai fait venir pour la venger. Il me restait un fils. C'était encore un enfant. Et il t'aimait, toi, le scélérat qu'il avait fait 2 fois orphelin. Il risquait sa vie pour aller te chercher au fond de la mer, l'or qui tentait ta cupidité. Tu l'as lié de tes mains et tu as attendu froidement la fin de son agonie pour rejoindre l'infâme complice qui venait de t'aider à l'étouffer. » Et avant que le monstre eût le temps de nier, Robert lui saisit le bras et l'amena devant le costume de plongeur dressé contre la tenture noire. À cette apparition, les cheveux de Diego se dressèrent sur sa tête, il poussa un râlement sourd et bondit en arrière. Il avait cru voir le spectre de Georges, et il tremblait de tous ses membres. « Finissons, lui dit Robert. Tu comprends qu'il faut que je te tue, comme tu as tué l'un après l'autre tous ceux que j'aimais. Bon, j'aurai le droit de te casser la tête avec une balle comme un chien enragé. Bien, je consens à me battre avec toi. Voici des armes, choisis, et faisons vite. » Le danger avait rendu quelque sang-froid à Diego. Il chercha à gagner du temps. « Un duel dans cette chambre, dit-il, un duel devant ces 2 respectables témoins qui m'assommeraient si j'avais le malheur de blesser leur maître. Oh, non. Alors, je ne tiens pas du tout, cher beau-frère, à vous donner cette satisfaction pour le repos de votre conscience. Si vous avez envie de vous défaire de moi, vous prendrez la peine de m'assassiner, car je ne me battrai pas. Pas ici, du moins. Mais partout ailleurs, je serai charmé d'occasion. » Le scélérat tentait sa dernière chance. Il espérait qu'un duel forcé répugnerait à la loyauté de Robert. Il espérait que son beau-frère se laisserait prendre la promesse d'une rencontre régulière. Mais le piège était trop grossier. Si le misérable réussissait à sortir de la maison, il échappait pour toujours. Robert représentait la justice de Dieu, et il n'avait pas le droit de faire grâce. Il regarda Diego bien en face et lui dit lentement, « Vous avez 5 minutes pour vous décider. Dans 5 minutes, si vous refusez encore de vous battre, j'ordonnerai à John de vous faire sauter la cervelle avec le pistolet qu'il tient à la main, Et l'ordre sera exécuté, je vous en réponds. » John baissa la tête en signe d'affirmation. Robert était si ferme et si froid que Diego comprit la situation. Une seule chance lui restait, celle de tuer son adversaire. « C'est bien, dit-il. Je me battrai, mais je veux choisir les armes. »